et France 24 présentent
Mardi politique.
C'est l'heure de Mardi politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Frédéric Rivière.
Bonsoir.
Alors ce matin, après 15 jours d'attente, l'Élysée a annoncé par communiqué la liste du nouveau gouvernement. À cette occasion, nous recevons 4 invités ce soir, Frédéric.
Oui, Olivia Grégoire, porte-parole du groupe La République En Marche à l'Assemblée Nationale. Julien Aubert, député du Vaucluse et secrétaire général adjoint des Républicains. François Calfon, conseiller régional socialiste d'Île-de-France, qui va nous rejoindre dans quelques minutes, il est pris dans les embouteillages, et Bastien Lachaud, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. La France Insoumise visée par 2 enquêtes qui ont donné lieu aujourd'hui à 2 perquisitions, dont l'une au domicile de Jean-Luc Mélenchon. On y reviendra, bien évidemment.
Alors, vous pouvez réagir à cette émission avec le hashtag Mardi Paul. Alors, sans réelle surprise, Christophe Castaner, ce proche de la première heure d'Emmanuel Macron, est ministre de l'Intérieur, flanqué d'un secrétaire d'État qui est l'ancien directeur de la DGSI, la Sécurité Intérieure, Laurent Muniez. Franck Riester, qui incarne la droite anti-Wauquiez. Il est à la culture de Modem, dont Jacqueline Gourault, qui hérite d'un grand ministère des territoires. Un socialiste, tendance Valls à l'agriculture. Donc droite, Modem, socialiste, écologiste, ce n'est pas une révolution, Olivia Grégoire, c'est quoi un gouvernement de coalition sans accord, bien sûr, avec les partis, puisque c'est pas dans nos institutions. Bref, est-ce que c'est un gouvernement extrêmement politique, dans le fond?
Je pense que c'est un gouvernement politique, mais je pense que le signal fort qu'on ressent dans ce gouvernement, c'est la nécessité, et moi je le ressentais en tant que parlementaire, donc je suis plutôt contente, de consolider la majorité, d'affirmer, de renforcer nos liens avec le Modem ou avec des pôles comme Agir sur lesquels on arrive à faire des majorités de projets, notamment, comme on a souhaité depuis 16 mois. Et je trouve important qu'on ait au sein, aujourd'hui, du gouvernement, des personnalités qui sont issues de différents horizons politiques, de différentes maisons politiques, mais aussi, et toujours, une ouverture forte sur les territoires, une ouverture vers la jeunesse aussi, avec des profils comme Gabriel Attal, qui sont assez jeunes. C'est pas pour l'exploit, c'est pas le sens vis-à-vis de la 5e, etc. Mais je trouve ça fort d'avoir à la fois des Jacqueline Gourault, qui ont quand même une expérience extrêmement forte des territoires, des jeunes gens comme Gabriel Attal qui ont émergé, des personnalités comme Franck Riester qui, de la loi Hadopi à aujourd'hui, depuis 10 ans, ont témoigné de leur expertise sur un sujet. Donc c'est à la fois un gouvernement politique, mais c'est aussi un gouvernement d'expertise qui consolide la majorité.
Bastien Lachaud, Julien Aubert, chacun votre tour. Peut-être en quelques mots, comment vous qualifieriez ce gouvernement remanié?
C'est la continuité. C'est tout change pour que rien ne change. Le vrai problème, c'est la politique qui est menée, c'est pas les personnes qui l'organisent. Là, ce qu'on voit, c'est que ce sont les fidèles du clan Macron qui sont récompensés, hein, que ce soit monsieur Attal, monsieur de Normandie ou monsieur Castaner, qui devient un sous-ministre de l'Intérieur, hein. Il perd le titre de ministre d'État, il est rétrogradé dans l'ordre protocolaire et on lui met un expert pour gérer la police. Donc que va faire monsieur Castaner? Est-ce que ça sera le ministre du tripatouillage électoral? Donc franchement, on a, et pire que tout, vous parliez d'écologie, mais la personne...
Une écologiste.
Oui, enfin, qui est une lobbyiste de Danone.
On va y revenir.
Donc c'est une lobbyiste de plus...
Mais
une lobbyiste de plus au gouvernement. C'est le gouvernement des lobbies, une fois de plus.
Julien Aubert.
Je dirais, moi, un gouvernement consanguin, avec un soin porté à faire exactement de fine-tuning qui permet de contenter tout le monde. En bon français, on a le petit jeune de La République En Marche pour montrer quand même qu'on vient piocher chez les députés. On a le patron de La République En Marche parce que c'est la fidélité. On a le Modem parce qu'évidemment, ils n'étaient pas très contents. Alors tant pis s'ils viennent du même département avec le premier, l'ancien assistant parlementaire de Madame Gourault. Ça fait un peu familial, mais enfin, il n'en reste pas moins que ça fait un deuxième Modem. On a les centristes qui menaçaient quand même, à l'approche des élections européennes, en voyant la cote des sondages s'effriter, peut-être de refranchir le Rubicon. On a vu les critiques de Christian Estrosi. Donc, on vient chercher Franck Riester, qui d'ailleurs a toujours été favorable à des sujets comme la PMA. Donc, ça tombe bien. On est sur le bon tempo, en bon français. Voilà. Donc, je crois qu'il y a eu cette volonté-là. Après, ce sont des choix politiques. Ce que je retiens, ce sont les grands perdants, qui sont, à mon avis, Édouard Philippe et Gérald Darmanin.
Pourquoi les grands perdants? Parce qu'il n'y a pas assez de personnalités de droite.
Parce que Édouard Philippe, à mon avis, en voyant la fragilisation du président de la République, s'est dit je peux pousser les feux et faire rentrer au gouvernement des gens de droite, ce qui me permettra de conforter mon assise. D'où ces 15 jours quand même de flottement. Et on voit bien que la stratégie d'Emmanuel Macron n'était pas aller à l'offensive à la droite, mais plutôt de conforter son bloc électoral. Le deuxième perdant, pour moi, c'est Gérald Darmanin, parce que il était très tenté par le ministère de l'Intérieur, et comme on le dit partout sur les plateaux, au ministère de l'Intérieur, on met un homme de confiance. Donc je suppose que Emmanuel Macron n'a pas totalement confiance en Gérald Darmanin.
Bon, François Calfont nous a rejoint.
En fait, il a raison, parce que Darmanin, il a trahi à peu près tout le monde. On ne sait pas où ça se terminera, les fiches du ministère de l'Intérieur. Non, plus sérieusement, avant de faire la réaction
que tout le monde... Pourquoi vous dites qu'il a trahi tout le monde, hein?
Bah, c'était le sarkozyste, il était toujours agréable avec tout le monde, et le voilà maintenant, tout en étant putatif candidat à sa mairie, encore dans ce gouvernement. Mais je ferme la parenthèse, ça n'a pas tellement d'intérêt, c'est un purement politicien.
Il est l'un de ceux qui avait eu les mots les plus violents à l'égard d'Emmanuel Macron,
oui, bon, ça
avant la campagne.
Le point, c'est que, d'une certaine manière, on a eu 2 semaines d'atermoiement pour que finalement Jupiter cède aux caprices d'un proche. C'est ça la réalité du ministère de l'Intérieur. 2 semaines de vacances pendant qu'on connaît, pardon, je vous ai pas interrompu. Pendant
vous qu'on connaît. J'ai parlé avec quel mauvais foi. C'est énorme.
Bon, alors d'accord, mais pour l'instant, avec beaucoup
alors,
de techniques politiciennes du nouveau et de l'ancien monde, vous m'interrompez. Donc laissez-moi juste. Laissez-moi juste quand même développer ma pensée. C'est pas possible peut-être en Macronie de le faire, mais moi je vais quand même tenter de le faire. Donc la magie qui était celle de Monsieur Macron, du Nouveau Monde, je vais pas refaire la démonstration, c'est celle d'une forme d'équilibrisme extrêmement politicien, où on tente finalement de colmater toutes les brèches, et c'est plus des brèches, c'est des béances qu'on a vues depuis 2 semaines. Moi je pose ici une question qui n'a pas été posée, et qui est quand même une question grave, et je le fais par votre intermédiaire. On a nommé un ministre de l'Intérieur, Monsieur Castaner pour ne pas le nommer, qui est le patron de La République En Marche. Il y a une enquête en cours sur l'un de ses salariés, Monsieur Crass. Donc si le magistrat...
Lié à l'affaire Benalla, pour que ce...
Mais c'est le petit Benalla de La République En Marche, qui était chargé de mission à La République En Marche, avec son pistolet à la bandoulière, et qui a, place de la contre-escarpe, comme Monsieur Benalla, frappé des gens, et exercé des pouvoirs de police parallèles. Ce Monsieur Castaner, qui est son employeur, et qui peut être interrogé dans le cadre d'une enquête, puisqu'il y a une enquête en cours pour des faits de violence portant sur M. Crass. Imaginez que la police judiciaire ou la gendarmerie veuille interroger l'employeur de M. Crass. Il s'appelle M. Castaner. Voilà la réalité des faits, et tout le monde a dit « Ah mais oui, mais finalement on a dit que M. Castaner était celui qui disait que finalement Benalla est le bagagiste des Bleus ». C'est beaucoup plus grave que ça.
Alors vous posez cette question.
C'est beaucoup plus grave que ça.
Je ne sais pas si quelqu'un ici est en mesure de
répondre. Non mais moi je la pose à M. Castaner, je pose ici par votre intermédiaire à M. Castaner, si il y a une justice indépendante et que les magistrats instructeurs décident de mandater la police judiciaire ou la gendarmerie. Non, mais que fera Monsieur Castaner? Et puis, le ministre de l'Intérieur est au courant. Pardon de le dire. Le ministre de l'Intérieur est au courant de l'action de la police ou de la gendarmerie sous commission rogatoire. Cela pose un problème majeur. Je vois que la question n'a pas été posée. Donc, je pose ici la question à Monsieur Castaner.
Mais que fera-t-il dans ce cas-là? Peut-être, Olivier Grégoire, vous pouvez répondre sur le fait, sur la question qui était posée sur 13 jours, pardon, pour ce remaniement. Est-ce que c'était nécessaire, ces 13 jours, pour former cette...
Moi, je vais déjà répondre à ce que je viens d'entendre. Je suis pas du genre à me défiler. Donc, je vois M. Calfont qui arrive et qui éructe les caprices, la bandoulière, M. Benalla, M. Castaner.
Je n'éructe pas, il y a une enquête en cours sur M. Crass.
Dans la formation politique,
je n'éructe pas.
Je vous pose une question. Vous
êtes là, il y a un chargé de mission.
J'ai bien compris la question, M. Calfont. Comprenez-vous, j'ai beau être jeune et du Nouveau Monde, j'ai bien compris la question. Je vous remercie, je vais donc tenter d'y répondre.
Avec plaisir.
Je vous remercie, si c'est possible d'en placer une. Je pense que M. Castaner va vous répondre et c'est pas du tout dans ses habitudes de se défiler. Donc s'il y a une enquête et si M. Crass, il y a une nécessité d'écouter M. Castaner, à l'aune de ses fonctions au sein de La République En Marche, ce sera fait, Monsieur Calfont.
Ah bon?
Voilà.
Bah
donc n'ayez pas trop d'inquiétude.
Ah bon, d'accord.
Voilà. Vous essayez de vous accrocher à Benalla depuis 3 mois. Vous avez fait votre business là-dessus depuis 3 mois.
Et le salarié de La République En Marche.
C'est bon. C'est une émission Benalla ou c'est une émission remaniement?
C'est important quand même.
Monsieur Calfont a résumé l'ambition de ce gouvernement en quelques minutes.
Je crois que c'est
voilà la hauteur du débat politique aujourd'hui avec la gauche.
C'est qu'on essaie de verrouiller toutes les affaires en cours.
Et
je constate que ce matin, il y a une célérité du parquet, une célérité de la police.
Monsieur,
non, mais laissez-moi.
On va venir aux perquisitions.
C'est des accusations sans fondement, je peux pas laisser dérouler ça.
De l'autre côté, je n'ai pas vu, sortir du plateau, je n'ai pas vu la même célérité concernant l'affaire en cours de Madame Pénic.
On va clore le sujet, peut-être. Vous avez posé la question.
Bon, attendez, s'il vous plaît, ne m'obligez pas à moi-même m'énerver. S'il vous plaît, François Calfon.
Mais oui, elle est mise en cause. Elle est mise en cause.
Sur la gauche, jamais personne n'est
mis en cause. Sur la vie de la France.
S'il vous plaît.
Non, mais c'est dommage.
Non, mais oui, mais c'est la pagaille.
C'est dommage, c'est pas...
Non, mais c'est la pagaille. Il faut vraiment remettre un peu d'ordre dans ce débat.
On va laisser Bastien Lachaud.
Non, s'il vous plaît, Bastien Lachaud.
Allez-y.
Bah oui, non, mais clairement, Monsieur Calfon... pose un vrai sujet sur Monsieur Castaner. Monsieur Castaner, qui était le responsable de La République En Marche. La République En Marche avait un salarié qui a expliqué qu'il possédait des armes, dans les locaux de La République En Marche. Rien n'a été fait. Est-ce que les choses vont avancer maintenant que Monsieur Castaner est ministre de l'Intérieur, que Madame Belloubet, qui en effet est liée... Pénicaud est liée aux affaires Business France de Emmanuel Macron, on peut en faire la liste. Il y en a beaucoup.
On peut faire la liste des non-lieux aussi qui sont tombés. Parce qu'il y en a pas mal.
Sur l'affaire
mais ça
business,
vous intéresse.
Sur l'affaire Business France.
Je parle pas de business
ah bon,
France.
Ah bon, non-lieux.
Non, mais
plus. Sur l'affaire Business France, je l'ai pas vu. Et sur Monsieur Kras et sur Monsieur Benalla, ce sont des affaires gravissimes. C'était une police parallèle à l'Élysée, sous la direction directe de Monsieur Macron. Et tout cela, conduit à ce que Monsieur Castaner, qui expliquait qu'il ne savait pas quel était le rôle de Monsieur Benalla, que Monsieur Benalla portait les bagages des Bleus, tout ça, au final, on a vraiment l'impression qu'il y a un clan qui obtient des récompenses, Monsieur de Normandie, Monsieur Attal, qui deviennent ministres. Monsieur Castaner qui obtient.
Julien de Normandie était déjà au gouvernement.
Non, il était secrétaire d'État.
Oui, mais
il est devenu ministre. Ah oui, non, mais c'est une promotion.
Oui, d'accord.
Et au final. On se retrouve avec Monsieur Castaner qui fait un chantage au président. Et le président cède. Mais que sait Monsieur Castaner sur le président pour que le président cède à un ministre chargé des relations avec le Parlement?
On va pas parler de choses, en fait, dans le fond, qu'on ne sait pas en réalité sur est-ce qu'il va être.
C'est très intéressant, continuons à bloc-bloter.
Non, mais
c'est scandaleux de monter la pression quand on essaie de la faire
rassembler.
C'est le fonctionnement de la République et de l'État de droit.
S'il vous plaît,
s'il vous plaît. Écoutez, prenez exemple sur Julien Aubert. Qui est d'un calme olympien. Et qui attend gentiment qu'on lui donne la
main. Mais
essayons d'avoir un minimum de courtoisie et de fluidité, parce que sinon c'est.
On peut pas dire que c'est du baratin.
Et irregardable.
Non, mais on peut pas dire.
Non, mais personne n'a dit que c'était du baratin.
Donnons la parole. On peut essayer d'élargir le sujet.
Et essayons de ne pas faire remonter la pression.
Le sujet Benalla n'est, à mon avis, pas le sujet du remaniement. Mais c'est vrai qu'il y a une question qui est en réalité la neutralité de l'État. Parce que, d'abord, la faiblesse, je dirais, la spontanéité du mouvement En Marche fait qu'Emmanuel Macron a peu de lieutenants, peu de cadres, et que pour gouverner, il a eu tendance quand même à essayer de coloniser une partie des fonctions vitales de l'État en y plaçant des gens qui étaient plutôt ses obligés. Quitte à parfois tordre le droit, on l'a vu en modifiant les postes à discrétion pour les consulats, où on est allé placer à Los Angeles quelqu'un qui avait fait la biographie du président de la République. On le voit sur les rectorats avec une Camarine Promo qui d'ailleurs a beaucoup de compétences, mais qui
s'est trouvée dans l'érectrice. C'était pas le cas sous Nicolas Sarkozy où on plaçait
C'est toujours un argument rhétorique de dire parce que les autres l'auraient fait, ça nullifie le constat qu'on le fasse aujourd'hui. Ce que je constate, c'est que peut-être le mouvement s'amplifie, en tout cas j'en ai l'impression, et que effectivement, dans le cadre de La République En Marche, c'est assez particulier, il y a quand même une prime très forte à la loyauté. Moi, ça ne me choque pas que Julien de Normandie soit promu, ça ne me choque pas que Gabriel Attal soit promu. Je vais vous-même vous dire, Gabriel Attal, c'est pour moi le plus logique. C'est-à-dire que normalement, dans un schéma normal, on a 300 parlementaires. On pourrait penser que quand il y a un remaniement électoral, un remaniement ministériel, au lieu d'aller chercher à droite, à gauche, chez les anciens du Nouveau Monde, on allait plutôt chercher les gens qui ont contribué à faire votre campagne. J'ai toujours été frappé, si vous voulez, de ce discours consistant à dire, regardez, c'est merveilleux, on a fait élire une nouvelle génération, et de placer aux manettes de ce pays uniquement les gens qui étaient là avant, ou quasiment. Bon, donc je crois que c'est plutôt positif, mais c'est vrai que il y a un mélange des genres sur le ministère de l'Intérieur, d'autant quand même qu'il y a un sujet majeur. c'est que vous le savez très bien, c'est en cas de réduction du nombre de parlementaires, c'est bel et bien Monsieur Castaner qui va tenir les ciseaux, et on peut penser que quand on a été président de la République,
alors ça, c'est
en marche,
le deuxième, voilà. le calme étant revenu, je m'en excuse.
Et en essayant de faire,
non, mais on va faire un deuxième sujet
de parole un peu plus bref.
Mais d'accord, mais plus bref, le deuxième sujet, c'est qu'on prend le chef du parti, qui en fait est un parti un peu croupion, c'est le parti du président, pour s'occuper à la fois des affaires de police. Bon, ça, moi, je lui souhaite là. Bon courage, et au nom de la France qu'il a réussi dans cette mission, on en a besoin. Mais il y a le deuxième aspect des choses, bien évidemment, c'est qu'on confie sans aucune espèce d'élégance le soin de réviser la Constitution et donc de faire la carte électorale afférente à celui qui était le chef du parti La République En Marche. Et là encore, on a écrasé les corps intermédiaires à de multiples reprises. Hein, je ne vais pas reprendre la litanie des saints, si j'ose dire. On confie à ses plus proches, et c'est quand même ce qui ressort de tout ce gouvernement. Oui. J'ai aucune antipathie à l'endroit de Monsieur Attal ou de Monsieur de Normandie, mais c'est une toute petite équipe, élargie à peine au MoDem et à Monsieur Riester. Voilà la réalité de ce gouvernement. Donc il y a une forme d'assèchement, de rétrécissement de cette majorité.
Je voudrais qu'on sorte des questions éventuellement de personnes, c'est un instant s'il vous plaît, parce que je suis pas sûr que ça passionne les gens de savoir que X ou Y a pris tel poste, et encore faut-il les connaître. Mais est-ce que je voudrais savoir...
J'espère qu'on va les connaître après son remaniement.
Oui, qu'ils serviront à quelque chose.
Ah bah écoutez,
ils sont passés de l'ombre à la lumière quand même.
On verra. Je voulais vous demander, Olivia Grégoire, trois ministères où il est question de la cohérence avec les territoires, ça fait beaucoup. Donc, est-ce qu'il y a là une volonté de réduire la fracture, non pas sociale, mais la fracture politique entre les élus et le
plan caché de tripatouillage à triple option?
Non, c'est pas ça que vous demandez.
Non, moi je réponds pas. Allez-y.
Ah ben non.
Non, mais moi ce type de démarrage de débat, si vous voulez, je suis navré, Monsieur Calfon.
Non, mais attendez, je vais vous poser une question différente.
Vous jouez plus le jeu. Vous voulez plus répondre
dans
aux
ce type de non là c'est
non mais là je vous pose une question
du débat me désole un peu j'en suis navrée c'est assez rare voilà quand à Jacqueline Gourault j'en suis ravie effectivement les territoires je pense qu'il fallait rééquilibrer les choses et je pense qu'il y avait peut-être un peu trop de métropolitains je pense que c'est intelligent d'avoir ouvert mais je pense que Monsieur Calfon va dire que j'ai tort dans quelques instants donc Monsieur Calfon non je suis fatiguée je fais des médias tous les jours ce genre d'attaque si vous voulez vous raccrochez des trucs mais irraccrochables vous faites des leçons à mollo je suis désolée Monsieur Calfon non mais je reste bloquée si j'ai envie vous m'accordez c'est encore un de mes droits.
Enfin, c'est
merci.
Constructif.
Voilà, donc que fait Monsieur Calfon constructif depuis le début du débat? On en parle?
La pression retombe.
Bah moi j'ai envie de la remettre, vous savez quoi?
Bon bah alors écoutez,
si Benalla et les perquisitions, je croyais qu'on venait sur le remaniement.
Mais voilà. On est en train de
donc on est sur la vraie belle politique, là donc c'est intéressant.
Est-ce que c'est un nouveau départ? Il n'y a pas de nouveau cap?
Non, les territoires c'est bien. Il n'y a pas de nouveau cap parce qu'on a un cap et qu'on le tient. La semaine dernière, déjà on nous posait la question de savoir pourquoi il n'y avait pas un nouveau discours de politique générale, pourquoi le Premier ministre n'avait pas démissionné. Bah parce qu'on a un cap, qu'on va essayer de le tenir. Et pour le coup, je suis assez d'accord avec Monsieur Lachaud. On n'est pas d'accord sur le cap, mais on essaye de tenir notre cap. Et on change pas de cap, donc je comprends que ce gouvernement est un gouvernement, comme je vous l'ai dit, plutôt de consolidation, avec une velléité, pas nécessairement de faire et droite et gauche, comme le dit Monsieur Aubert, en tout cas une volonté, peut-être, mais on l'avait dit, si vous voulez.
Dans les ingrédients, il y a quand même Franck Riester pour le centre droit.
Mais c'est plutôt bien, la recette, qu'elle vous plaise pas, que vous n'aimiez pas le gâteau, c'est un sujet. Non, moi, je trouve que le gâteau a l'air appétant.
C'est pas ma recette, c'est toujours, c'est qu'on est bel
et
bien.
Parce qu'on aurait dit l'inverse, vous nous auriez cité l'inverse, on aurait fait que du En Marche. Et alors là, je viens d'entendre un truc qui est assez génial, c'est-à-dire qu'il n'y a que du En Marche. Ça aurait été pas bien non plus. On ouvre aux UDI, on ouvre à des anciens socialistes, sénateurs, etc. C'est pas bien non plus.
Il faut quand même souligner quand même quelque chose.
On a des oppositions avec qui rien ne va.
Il faut quand même souligner qu'il n'y a personne.
À commencer par le Parti socialiste.
Qu'il n'y a personne des Républicains. De nouvelles têtes des Républicains qui est parti, parce qu'à un moment donné, ça a été le grand jeu. On a dit, paraît-il, qu'un tel, un tel, un tel. Franck Riester, c'est pas une surprise, si vous voulez. Il a quitté les Républicains en 2017. Il est dans sa trajectoire. Bon. En plus, il a toujours été intéressé par les affaires culturelles, comme vous l'avez pointé. Donc, c'est assez logique, je dirais. Mais, c'est assez, néanmoins, illustratif de l'évolution. Parce que, d'un point de vue politique, on peut dire que la première année d'Emmanuel Macron, on avait l'impression d'une supernova qui était en train de manger tout le spectre politique. Jusqu'à, je me souviens, Robert Hue qui disait « je suis marcheur ». On disait « mais qu'est-ce qui arrive ?» Bon. Et là, on a l'impression que le nuage s'est cristallisé et qu'on reste bloqué, je dirais, sur un certain périmètre et que ça s'est arrêté.
Mais est-ce qu'on peut se permettre de dire qu'une question n'a pas été répondue sur le fond? Et moi, j'essaie d'élever le débat avec votre autorisation, Madame Grégoire. sur le fait qu'il y a bien évidemment une souffrance qui a été exprimée dans les enquêtes d'opinion par les maires, par les élus. J'étais au congrès des régions de France, j'étais au congrès de l'Union HLM. Les élus, les territoires, bon, il y a une tentative d'y répondre. C'est plutôt une bonne chose. Peut-être d'ailleurs que ça nous sortira de cette initiative assez épouvantable, assez poujadiste, du balance ton maire, hein, sur la question de la suppression de la taxe d'habitation et l'augmentation des impôts fonciers. C'est une première étape, parce qu'il faut essayer de finalement de est-ce que quelque chose a été entendu. Moi, je ne suis pas dans la critique a priori. Ce qu'on attend de voir, c'est dans les lois de finances finalement qui vont suivre, sur la question des APL, sur la question des contrats aidés, sur la question de la réponse territoriale, sur la question, pardon de le dire, j'ai entendu,
on doit marquer une pause dans
oui mais par exemple sur la question de la fiscalité sur le diesel qui impacte la France périphérique, il y a toute une série de sujets où on vous attend, mais après tout
en deuxième mi-temps on revient, on reparle de tout ça, éventuellement du malaise de la ruralité, etc. On marque une pause en espérant que la pression retombe, et on se retrouve dans 5 minutes. À tout de suite.
FI et France 24 présentent
Mardi politique.
Retour dans Mardi politique avec Frédéric Rivière et nos invités sur un plateau un peu surchauffé, Olivier Grégoire. Rebonsoir, porte-parole du groupe La République en marche. Vous ne boudez plus parce que votre voisin, François Calfon, conseiller régional socialiste d'Île-de-France, vous a un peu énervé, donc à vos côtés. Et puis, nous saluons aussi Julien Aubert, député du Vaucluse, secrétaire général, adjoint Les Républicains, et Bastien Lachaud, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. On vous posait la question, Olivier Grégoire, de savoir s'il y avait un nouveau cap. Non, il n'y a pas de nouveau cap, puisqu'effectivement, on sent bien que l'exécutif a voulu banaliser cette séquence sans démission donc du Premier ministre, ni côté solennel pour l'annoncer, ce fut par un simple communiqué. Est-ce que, Bastien Lachaud, vous considérez que ce nouveau souffle qui était appelé des vœux de certains dans le gouvernement, eh bien, c'est ce second souffle qui arrive avec cette nouvelle équipe ?
Non, c'est clairement la démonstration que, justement, et Madame Grégoire l'a bien dit, il n'y a pas de second souffle, il n'y a pas de nouveau cap, c'est la même chose. Et donc, il n'y aura pas de Macron saison 2, on est sur Macron saison 1 qui continue, et avec lui, la politique qu'il a menée, et cette politique qui a mené à un désamour clair des Français.
Vous pensez que c'est la politique d'Emmanuel Macron, ou c'est parfois plutôt sa personnalité qui a pu, étant donné qu'il n'y a pas vraiment de résultat pour l'instant sonnant et très méchant.
On n'a des résultats ni en bien ni en mal. Si, le résultat, il est en mal. Par exemple, à l'été dernier, on a détruit le code du travail, méthodiquement, consciencieusement, en expliquant, vous allez voir, ça va créer des emplois. Un an plus tard, les emplois ne sont pas là, les licenciements, la diminution de la qualité de travail des Français est au rendez-vous. Donc les Français voient bien que les résultats sont négatifs et que et vous parliez de la manière d'Emmanuel Macron de gouverner. Je pense que en effet les deux sont liés. Il n'y a pas de résultat. Le président, je ne vais pas dire qu'il s'énerve, mais il perd un peu pied et il surjoue n'importe quoi. Et franchement, le passage calamiteux dans les Antilles pose question.
Le sujet, c'est que traditionnellement...
Je voulais vous répondre, mais... Tout à l'heure, parce que M. Calfon a évoqué le divorce avec les territoires. Ouais. Alors, il y a un phénomène conjoncturel, je crois qu'il y a un phénomène structurel. Parce que ce monde des territoires, en réalité, c'est l'ancien monde. C'est la classe politique qui existait avant Emmanuel Macron.
Alors attendez, d'un mot, parce que tout le monde reprend sans arrêt cette expression ancien monde, nouveau monde, mais croyez ou c'est de l'ironie?
Là, il n'y a aucune ironie, c'est-à-dire que qu'est-ce qui est arrivé à l'ancien monde politique? Soit il a disparu parce qu'il a perdu aux élections législatives, soit il s'est un petit peu recyclé dans les troupes macroniennes, soit surtout il s'est replié sur des territoires locaux, sur des collectivités territoriales, et on voit bien d'ailleurs au moment du remaniement qu'aujourd'hui on préfère être maire de Lyon que ministre, et en réalité il y a beaucoup plus d'attrait à être à la tête d'une collectivité que parlementaire, où on a depuis 10 ans quand même plutôt diminué les avantages, ou même ministre.
Les droits surtout.
Et donc, lorsqu'on essaye de faire une politique nationale, et avec des gens qui sont des nouveaux, avec une majorité qui est largement issue des villes, qui est plutôt métropolitaine, urbaine, eh bien, je crois que dans l'ADN l'ADN de cette majorité et dans l'ADN du gouvernement, il n'y a pas cette conscience des territoires. Et donc, on a non seulement une différence de diagnostic, mais on a aussi deux classes politiques qui se font face. Et je crois que le non-cumul des mandats, de ce point de vue-là, a joué un rôle. C'est-à-dire qu'avant, il y avait beaucoup plus de députés qui étaient aussi, en fait, les ambassadeurs, je dirais, de leur collectivité. Dès que vous parliez de taxe d'habitation, vous aviez 150 maires qui montaient au créneau en disant « Mais moi, dans ma commune, je sais comment ça se passe ». Aujourd'hui, vous en avez toujours, parce qu'il y a encore une queue de comète, mais dans 10 ans, je pense qu'il y aura vraiment deux classes politiques, une très politisée et peut-être avec un poids des villes très fort, et une qui sera peut-être plus représentative du territoire, mais qui sera repliée dans les collectivités.
Juste revenir parce que
rapidement,
pour corriger, parce que en tout cas moi, si je suis parlementaire, c'est pas en raison des avantages des parlementaires, mais c'est en fonction, c'est en raison de leur pouvoir et du pouvoir de faire la loi.
Je me suis demandé si la langue de Julien Aubert avait fourché ou si
je pense
vraiment son intention de parler.
Non, mais juste, c'est vraiment l'ancien monde.
Voilà, mais la vraie question de la vraie question du pouvoir du Parlement a été rabaissée.
Avec le cynisme.
Non, c'est pas du cynisme. Le pouvoir du Parlement a été rabaissé.
Il
a été rabaissé depuis le quinquennat.
Mais les Français qui nous écoutent, évidemment, on vient pour faire la loi. Simplement, on a tous une maison, un décrédit, etc. Donc, quand vous
arrivez. Écoutez,
moi, j'ai perdu
une année. Mais vous pouvez pas dire ça.
Non, mais même des députés de la majorité qui le disaient, si vous voulez. Il faut pas faire croire, si vous voulez, que quand vous arrivez au Parlement, moi, ma retraite a été divisée de moitié, on a diminué 30% de ma rémunération. Vous êtes un être humain. Mais attendez. D'accord, mais vous, très bien, faites croire.
C'est pas mon sujet.
Je suis député, hein.
C'est pas mais ce n'est pas une raison. Ce n'est pas une raison. Mais simplement, regardez-en les conséquences aujourd'hui. Expliquez-moi pourquoi tous les poids lourds. Expliquez-moi pourquoi tous les poids lourds du Parlement ont préféré être maire ou président de métropole plutôt que parlementaire.
Juste, j'avais demandé la parole. J'adhère quand même pas à cette espèce de syndicat de l'ancien monde. Et je vais vous donner acte d'une chose, non pas personnellement, mais dans votre mouvement politique. Il y a vraiment.
Vous vous adressez à Olivier Grégoire.
Oui, Olivier, bien sûr.
Mais vous savez. Aussi à la radio.
Oui, mais d'accord, mais c'est un débat et on se répond. Et c'est plus vivant comme ça. Que oui, c'est vrai, l'ancien monde a quelque part un peu implosé et c'était pas forcément une mauvaise chose, qui est une forme de disruption dans la vie politique. Mais le nouveau monde n'a pas éclos. Et d'une certaine manière, je vais pas reprendre le film de la perte de confiance qui est forte sur le plan politique, forte sur le plan personnel du président de la République qui a concentré tout à lui. On attend en général d'un remaniement gouvernemental que ce soit un moment de reconnexion avec les Français. Donc c'est la nature de l'exercice. Bien sûr, je suis d'accord. Mais la deuxième remarque, c'est quand même cet assèchement parce que beaucoup de gens ont été contactés, hein, que d'une certaine manière, être la roue de secours d'un prétendu nouveau monde qui ne fonctionne pas, ça n'attire pas cette société civile. Et donc, on a cet assèchement. Et d'ailleurs, Olivia Grégoire, peut-être, n'était-elle pas candidate. Ça a été décrit sur la dépréciation de la fonction politique. Pardon, je n'adhère pas à vos propos sur votre retraite ou votre maison. C'est pas acceptable pour moi. Ah bon ? Mais simplement, il y a réellement une dépréciation de la fonction politique.
Mais il faut arrêter le populisme sur la démocratie.
Je suis pas dans le populisme. J'ai un métier et une activité politique. Et si je veux avoir un métier, c'est pour gagner des sous, l'activité politique. C'est pour le sens civique, c'est tout.
Le sens civique, je l'ai tout autant que vous. Simplement, à un moment donné, il faut arrêter de dire aux gens. Il faut arrêter de développer le discours populiste consistant à dire que la démocratie n'a aucun coût.
C'est sur le mot avantage.
Je voudrais poser une question à Olivier Grégoire parce que je suis frappé maintenant ici avec vous, mais aussi quand je suis moi spectateur de débats télévisés, j'ai l'impression qu'un an et demi après l'élection d'Emmanuel Macron, finalement le monde politique qui a été écarté ou qui a perdu ne s'en est toujours pas remis et qu'on est toujours en train en quelque sorte de rejouer l'élection. Est-ce que c'est pas de ça un peu qu'il s'agit, Olivier Grégoire ?
Vous allez définitivement pas m'apprécier ce soir et j'en suis désolé. Mais j'ai jamais versé ni dans le nouveau l'ancien monde. D'abord, je crois que j'ai été une voix parfois dissonante au sein de la Macronie, comme on dit, pour dire qu'on avait à apprendre des autres et sûrement des anciens. J'ai eu le plaisir de travailler dans l'ancien monde ou avec les anciens. Je pense qu'on n'a pas la science infuse, et je pense que je l'ai dit bien avant que des ministres ou d'anciens ministres illustres l'expriment beaucoup plus fortement. Je pense que l'humilité, la modestie sont des valeurs qu'il nous faut consolider, renforcer, et je le dis comme je le pense et je l'ai fait savoir aussi, je pense aussi à l'empathie. Moi, je parle avec toutes les oppositions jusqu'aux insoumis.
C'est ce que disait Gérard Collomb à propos
de l'humilité. J'ai parlé d'un ancien ministre, voilà, donc je rends à Gérard ce qui appartient à Gérard, mais figurez-vous qu'il y a aussi des parlementaires quarantenaires dernière mouture qui pensent aussi ça. Et donc, je pense qu'il est au-delà des mots, parce que l'empathie où la modestie, ça se décrète pas, ça se pratique, et je pense que le souffle, s'il est pas nouveau, en tout cas, qui est injecté dans ce gouvernement, bon, j'entends que vous dites, il n'y a pas de nouvelle personnalité, vous savez, moi, je vois des jeunes femmes comme Christelle Dubos, que personne ne connaît aujourd'hui, qui est une parlementaire, qui a bien mené son texte élan, qu'on l'aime ou qu'on n'aime pas ce texte, mais qui a supporté un texte parlementaire après 6-8 mois, qui a 20 ans de travail dans l'action sociale, donc il y a une forme de cohérence qu'elle soit aux côtés d'Agnès Buzyn aujourd'hui pour porter à la fois la réforme des retraites et d'autres réformes importantes. Des gens comme Gabriel Attal, dont on a parlé, qui sont quand même des gens...
Ce sont pas des poids lourds politiques.
C'est pas encore des poids lourds politiques. Gabriel Attal, excusez-moi, mais c'est pareil, ça se décrète pas d'être un poids lourd. Donc ce que je pense, pour revenir juste là-dessus, c'est que je voudrais juste pas oublier, et c'est un peu dommage, parce que, et nous en sommes très certainement responsables, comme beaucoup de choses. Moi, je pense qu'on a aussi, dans le fond, depuis cette rentrée, et je sais que ça va pas satisfaire les insoumis, mais qu'il y a une écoute un peu nouvelle et des actions nouvelles. Voilà.
Comme quoi ? Vous avez un exemple ?
Voilà. Ah bah, je savais que je m'exposais, mais je pense notamment au grand plan santé qui a été présenté par Agnès Buzyn. Je pense aussi aux...
Tous les hôpitaux du pays sont à bout de souffle, sont en grève.
Oui.
Bon, oui, mais oui. Ça,
qui qu'on diminue
pas
la T2A en...
Qui a baissé le budget de la santé l'an dernier de plusieurs milliards ?
Écoutez, juste un peu.
Ah, j'y peux rien. C'est pas de ma faute si c'est votre gouvernement qui a fait ça. Il y a vous qui avez voté.
Non, non, mais s'il vous plaît.
Il y a un débat qui a été soulevé.
Mais
non, c'est pas des anathèmes, c'est des vérités.
Par le Premier ministre et relayé ici sur ce plateau. Moi, c'est ça.
La ligne des crédits.
Ce qui m'intéresse, c'est il n'y a pas besoin de nouveau souffle. Il n'y a pas besoin de second souffle dans l'action de ce gouvernement. Donc moi, je vous pose une question qui est toute simple. C'est, est-ce qu'au regard de ce que vous avez dit à l'instant et que j'ai trouvé comme un moment de vérité, il y en a eu d'autres sur ce plateau. Vous avez dit que vous n'adhériez pas au nouveau versus l'ancien monde. Est-ce que, j'ai entendu ce que vous disiez de la démission de Gérard Collomb, est-ce que vous considérez que de ce fait, des critiques que vous avez pu émettre ou des observations, je suis pas là pour vous mettre en porte-à-faux, c'est cohérent avec l'idée, circuler, il n'y a rien à voir, on continue sur le même cap, ou est-ce qu'il aurait été au contraire souhaitable qu'il y ait un peu un nouveau souffle, parce qu'il y a même une forme d'incompréhension.
On a compris. On a question de François Calfon à Olivia Grégoire.
Réponse, ce que je ressens, et je sors d'un texte économique sur la loi Pacte notamment, ce que je ressens, c'est qu'il y a un cap qui a été donné. On a dit l'an passé, en termes budgétaires, que c'était ce qu'on appelle du pluriannuel, donc on déroule un programme, on a un programme, on mène des actions, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable d'élargir sur un certain nombre de sujets. Je pense au territoire, je pense au renforcement de l'action sociale qui n'a pas été assez forte. Et donc il y a une dimension d'écoute, si vous voulez. Mais c'est pas pour autant que le cap est mis à mal. Pour autant, je trouve qu'il est un peu plus élargi, tout à la fois en termes de thèmes et de personnes. Voilà.
Je voudrais qu'on passe à un autre sujet. Ça vous concerne. Ça concerne la France insoumise. Donc, il y a deux enquêtes préliminaires qui visent donc la France insoumise. L'une en 2018 suite à la commission des comptes de campagne sur les dépenses litigieuses. La deuxième en 2017 après qu'une élue du Front National ait dénoncé les eurodéputés qui employaient des assistants. On va écouter Jean-Luc Mélenchon, qui a filmé
sa perquisition
ce matin. On l'écoute, il est furieux.
Alors, me touchez pas, monsieur, vous n'avez pas le droit de me toucher. Ça, c'est le procureur qui dit que je sais pas quoi. Personne ne me touche. Ma personne est sacrée, je suis parlementaire. Et pour vous en convaincre, et que vous terminiez de bien comprendre qui je suis, mets-moi ça. Voilà. C'est moi, Mélenchon, avec mon écharpe tricolore. Je n'ai peur de personne. Ces gens-là peuvent envahir ma maison, les locaux de mon parti et de mon mouvement, ils ne me font pas peur. Nous n'avons rien volé, nous sommes honnêtes.
Voilà, est-ce que ça voudrait dire que Jean-Luc Mélenchon ne se pense pas comme un justifiable comme les autres ?
Non, ce qu'il a dit quand il a dit que sa personne était sacrée, c'est l'inviolabilité du député. Mais parce que ces affaires-là, c'est une question politique, ce qui s'est passé ce matin. Parce que nous parlons d'enquête préliminaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'instruction. Il n'y a même pas eu de nomination de juge d'instruction. C'est-à-dire qu'aucun fait n'est avéré. Il y a eu des questions qui ont été soulevées par une élue du Front National, qui ont été soulevées par la Commission nationale des comptes de campagne après qu'elle ait validé les comptes. Et donc, les comptes ont été validés. Donc, il y a une enquête préliminaire qui ne dépend pas d'un juge d'instruction indépendant, mais qui dépend d'un procureur. Un procureur qui est nommé par les autorités politiques. Et on a vu depuis 15 jours que Emmanuel Macron a décidé de lui-même s'ingérer
dans la nomination des procureurs.
Tous donc, les présidents de la République ont fait ça.
Non, pas du tout. C'est la, pas à ce niveau-là, pas sur le procureur.
On leur propose non, mais... des noms et ils valident qu'ils veulent.
Et donc,
mais là, il n'en a validé aucun.
Là, il n'en a validé aucun. Non, mais... J'aimerais quand même terminer. Il y a eu 15 perquisitions ce matin dans le cadre d'une enquête préliminaire. Ça n'existe pas, ça n'a jamais existé. On est quasiment dans une opération antiterroriste. Et normalement, quand il y a des journalistes ou des hommes politiques qui sont concernés, on nomme immédiatement un juge d'instruction qui est le garant de l'indépendance de la justice. Et donc là, on a le jour du remaniement. Comme par hasard. C'est-à-dire que la principale force d'opposition est rendue inopérante.
Mais de quoi vous parlez?
Oui, si vous voulez. Bah, en tout cas, la principale force d'opposition de ce pays est mise en état d'incapacité de réagir au remaniement ministériel. À un moment donné, il faut réellement se poser des questions.
Mais est-ce qu'il met pas sa personne très... Enfin,
mais c'est pas sa personne.
Quand il dit ma personne est sacrée.
Mais, enfin, non, mais on parle de son rôle de député.
C'est-à-dire l'élitisme.
On parle, mais pas du tout. C'est pas du tout ça. On parle du rôle de la fonction de député. Il est président d'un groupe d'opposition. Dans ce pays, comment est traitée l'opposition dans ce pays? Est-ce que, je suis désolé, madame Grégoire, mais on va y revenir. Monsieur Benalla, quand il y a eu perquisition chez monsieur Benalla, non, mais juste, vous n'avez pas compris ce que j'ai dit, parce que je ne l'ai pas dit. Monsieur Benalla est arrivé devant la porte avec la police pour perquisitionner chez lui, il a dit je n'ai pas les clés, les policiers ont dit très bien, on reviendra le lendemain, et dans la nuit, le coffre-fort a disparu.
Bon.
Est-ce que c'est normal?
C'est une affaire à plusieurs couches. Il y a la manière dont c'est fait, c'est mis en spectacle par Jean-Luc Mélenchon, il a sans doute raison d'un point de vue politique. Est-ce qu'il a raison sur le fond? Il y a peut-être un côté poétique spectacle, enfin bon. Après, c'est vrai qu'il y a un mélange des genres, et je crois que c'est pas la première fois que la justice rentre dans le champ politique. Lorsque c'est généralement votre camp, vous y voyez la main du pouvoir et vous êtes assez peu défendu. Je me rappelle de l'affaire Fillon, très rapidement instruite en pleine élection présidentielle. Je me rappelle de Marine Le Pen, dont on a quand même bloqué les fonds, une grande partie des fonds, ce qui quand même l'empêche quand même de fonctionner. Et maintenant, c'est Jean-Luc Mélenchon. Donc, à partir du moment où il y a une suspicion, je crois qu'il faut faire effectivement très attention. Maintenant, je rappelle que l'indépendance de la justice, effectivement, les magistrats sont inamovibles. Ça ne signifie pas que c'est aux magistrats et aux juges de faire de la politique dans ce pays.
Alors, le Premier ministre, aujourd'hui même à l'Assemblée, on va écouter le Premier ministre, c'est très bref, a répondu sur ces accusations, puisque le terme a été employé par Jean-Luc Mélenchon, sur ces accusations de police politique. On va l'écouter.
La perquisition qui a été réalisée ce matin n'a pas été demandé par, entre guillemets, je vous cite, un procureur que j'aurais nommé après un entretien préalable. Il n'y a aucune, monsieur le président Mélenchon, aucune instruction individuelle donnée au procureur qui fait que les décisions du procureur, en l'occurrence celle-ci, a été soumise au contrôle d'un juge de liberté et de la détention qui est un magistrat du siège et qui est évidemment parfaitement indépendant. Il ne m'appartient pas, monsieur le président Mélenchon, il n'appartient d'ailleurs en vérité à aucun d'entre nous de remettre en cause le texte constitutionnel et le principe fondamental de l'indépendance de la justice.
Olivia Grégoire, pour vous, rien à ajouter à ce qu'a dit le Premier ministre?
Écoutez, fait son travail. Le procureur, vous le savez, de la République, en l'occurrence, n'a pas été nommé par Emmanuel Macron.
Non, mais le successeur va l'être.
Voilà, je comprends le spectacle, l'émotion. Vous savez, on commence à être habitué, en fait, avec les insoumis. Donc, on a passé notre week-end sur les insultes de Monsieur Ruffin et ça continuera longtemps. C'est votre mode de fonctionner. Moi, je ne crois pas. J'ai rien à ajouter à ce qu'a dit le Premier ministre. Depuis 2013, les poursuites sont individuels. Je pense qu'il y a un sujet, je pense qu'il y a une perquisition et je pense que la justice fait son boulot. Après, je comprends ce qu'a dit Julien Aubert, c'est-à-dire qu'en fonction du camp où on est, on voit pas les choses de la même façon et je comprends que vous instrumentalisiez les choses lourdement. C'est bon jeu.
Il y a deux, trois observations. D'abord, il y a des mises en cause. Est-ce que ça fait l'objet d'un magistrat instructeur ou non? On entend les critiques de la France Insoumise. Personne n'est un justiciable au-dessus des lois ou un non-justiciable.
On n'a jamais dit le contraire.
J'ai pas fini. Je comprends le courroux politique, y compris cette société du spectacle dans laquelle nous sommes, qui fait que la défense, finalement, des mises en cause, peut être, et en l'occurrence c'est le cas, l'hypermédiatisation. Par contre, ce qui me pose sujet, je le dis très calmement cette fois-ci, c'est qu'il y a des instructions en cours qui concernent des membres du gouvernement. Alors, ça a été réglé par la démission, ou plutôt par le fait de l'avoir expulsée. Madame Nissen a été expulsée purement et simplement du gouvernement. J'observe que sur une affaire qui est très grave, qui est l'affaire Business France, qui est actuellement instruite, il y a un magistrat instructeur, c'est Renaud Van Ruynbeck, il y a une grosse agence de communication sur des faits qui sont importants, qui concernent la campagne présidentielle de l'actuel président de la République. Il y a une mise en cause qui est l'ancienne directrice de Business France actuelle. Je souhaite simplement, je le dis ce soir, avec beaucoup de sérénité, que la justice ait la même célérité pour l'ensemble des familles politiques. Je ne reviendrai pas sur ce qui a fait l'objet d'un courroux en début d'émission, mais il y a quand même une affaire Crasse-Benalla qui est en cours, et nous souhaitons que l'instruction, mais on a parlé de bien autre chose ce soir, nous ne sommes pas focalisés sur Monsieur Benalla, que l'instruction puisse se dérouler en toute indépendance. J'ai noté quand même une sorte, finalement, de rapport de vigilance sur le fait que...
L'implication entre la justice et le mystère de la...
Et d'ailleurs, on va rappeler qu'il y a une enquête préliminaire également sur les comptes de campagne de monsieur Macron avec des dépenses liées à la ville de Lyon. Pourquoi il n'y a toujours pas de perquisition? Pourquoi monsieur Castaner
personne ne reprend?
C'est terminé.
Voilà.
Je voudrais juste dire que madame Nissen n'a pas été expulsée. Je trouve le mot très cavalier. Elle est sortie. Je vous remercie.
Merci
Olivia Grégoire. Merci François Calfont, Sylvien Aubert et Bastien Lachaud. Vous pourrez continuer tout à loisir dans quelques instants.
Merci.
Et on se retrouve mardi prochain.
Oui, merci à Charlotte, Rien Thomaca et à Camille Néran d'avoir préparé cette émission, et à toute l'équipe technique. À très vite. Merci.